Dans le cadre de leur émission « Les chemins de l'histoire », Daniel et Jean Fleury vous proposent quatre émissions sur la période médiévale à Nîmes, intitulées « Du Duocento au Quattrocento ». Nous y découvrirons les prémices inspirées du modèle italien, de l'émancipation bourgeoise, de la devotia moderna et finalement de l'humanisme qui feront le lit de la réforme nîmoise. Aujourd'hui, fin du Trecento nîmois. Dans cette troisième émission, nous évoquerons le sombre crépuscule médiéval, tant à Nîmes qu'à Florence. Le violiste catalan Jordi Savall nous accompagnera avec une mélodie du XIIIe siècle et une pavane de Louise de Milan.
Nous avons vu la dernière fois qu'à Nîmes, le début du Trecento, le XIVe siècle, avait été une période tourmentée, dominée par plusieurs phénomènes intriqués liés aux croisades en Orient, qui eurent deux conséquences considérables. L'ouverture de voies commerciales nouvelles, avec le développement du commerce international, mais aussi la peste noire.
Celle-ci avait été importée du Centre-Asie par les Mongols, venus assiéger en 1346 le port génois de Kaffa, en Crimée, avant de disséminer en 1347 par voie maritime à Constantinople, puis Gênes et Marseille en novembre. Pise est atteinte en 1348, puis Venise. L'épidémie s'étend sur des populations affaiblies par des famines provoquées par un refroidissement climatique depuis le début du siècle et surtout des guerres incessantes. Comme une vague, le fléau tue localement près de 30% de la population en 6 à 9 mois, puis disparaît. Florence, qui était passée de 60 000 habitants vers 1250 à 120 000 vers 1325, perd près de 60% de sa population. En janvier 1348, on dénombre 20 000 morts en Avignon, carrefour alors du monde chrétien. Début février, la peste s'étend vers Narbonne. Nîmes n'est pas épargnée, et la mortalité est telle qu'on ne trouve plus personne pour gérer les fermes publiques pendant plusieurs années et que dans les arènes, particulièrement touchées, les consuls des chevaliers ont alors moins de 25 ans.
En mars, le fléau frappe Carcassonne, Perpignan et fin juin Bordeaux, d'où elle diffuse vers l'Angleterre et Rouen. En été 1348, elle est à Paris et en décembre, elle a gagné toute l'Europe méridionale. Au printemps 1349, elle traverse l'Europe du Nord pour s'arrêter en 1351 aux vastes plaines inhabitées de Russie. Si quelques villes sont épargnées, comme Bruges, Milan ou Nuremberg, c'est au prix de mesures d'exclusion drastiques.
Alors, comme d'habitude, les Juifs sont accusés d'empoisonner les puits et il convient de signaler la position du pape Clément VI, 1342-1352, qui, dans sa bulle « Quam vis perfidiam » de septembre 1348, s'il évoque bien la pestilence dont Dieu afflige le peuple chrétien, note que les Juifs sont également touchés et enjoint donc de les disculper et même de les protéger. On réprime par contre les pratiques perçues comme contraires à la volonté de Dieu pour apaiser son courroux.
Le roi d'Aragon interdit jeux, jurons, travail du dimanche, prêche pour un gain financier les jours fériés et les vêtements ostentatoires. On multiplie partout processions, prières, supplications auprès des saints protecteurs. Les consuls de Nîmes font dire une messe journalière à Saint-Baudy ou Saint-Sébastien, dans une chapelle de la cathédrale, et des flagellants s'administrent des châtiments corporels en place publique afin de calmer la colère divine. Contrition, repentance, obéissance envahissent les sermons et l'idéologie prônée par l'Église. Relayant les mesures de protection mises en place par les autorités, les prêtres menacent d'excommunier les villageois, voulant fuir un lieu contaminé, tandis que dans les hôpitaux surchargés, religieuses et religieux se contaminent en grand nombre.
Si la sécularisation croissante de l'Église avait été amorcée, la grande peste affecte la confiance des fidèles en une institution incapable de sauver et préserver les croyants de la maladie et remet en question sa prétendue infaillibilité. Deux autres événements concernent notre région. En 1346, l'acquisition par le roi Philippe VI de Montpellier, qui devient ainsi ville royale, concurrente de Nîmes.
Et surtout, de 1309 à 1387, l'installation en Avignon de la papauté avec des papes et cardinaux pro-français. Certains auraient eu un hôtel nîmois au coin de la rue de l'Arc du Gras, ce qui expliquerait la chapelle recouverte de fresques du XIVe siècle, trouvée lors du percement de la rue Perrier, et l'inscription « Rue des Cardinaux » au coin de la rue des Lombards. Mais la plupart ont leur livrée en Avignon ou Villeneuve-les-Avignon, tel le neveu du pape Jean XXII ou le futur Clément VI, fondateur de la Chartreuse, et qui achètera la ville d'Avignon à la reine Jeanne en 1348. Il y doublera la superficie du palais des papes pour y tenir une cour fastueuse avec des artistes italiens tels Simone Martini ou Matteo Giovannetti.
Il introduit ainsi le Trecento italien dans notre région avec la plus grande bibliothèque d'Europe. La nouvelle capitale de la chrétienté dépassera les 40 000 habitants. Pendant ce temps, sont achevés à Florence le Palazzo della Signora, le Ponte Vecchio et Santa Maria del Fiore, tandis que l'industrie de la soie se développe, même si les faillites de banquiers sont fréquentes. Ainsi, en 1342, les Bardi et Peruzzi, qui avaient prêté à perte de fortes sommes à Édouard III d'Angleterre.
La présence papale génère une diplomatie importante entre Avignon et Paris durant la guerre anglaise et la visite, après Philippe VI, de son fils Jean le Bon, venu rencontrer Innocent VI en 1354. Le roi préfère cependant résider à l'évêché de Nîmes et y demeure près d'un mois. À cette occasion, il ratifie la nouvelle organisation consulaire plus favorable au métier qui permet aux chevaliers bourgeois et échelles d'élire leurs propres conseillers et consuls. Dès la peste passée, l'industrie lainière a en effet redémarré. Le consulat sort pourtant en majorité de la bourgeoisie, car en quittant les arènes, les chevaliers abandonnent leurs privilèges municipaux.
Rappelons que déjà à Paris, en 1351, tout en bloquant les salaires pour éviter une hausse des prix, Jean le Bon avait brisé le système des corporations en permettant à chacun de s'installer artisan, laissant la loi de l'offre et la demande réguler les prix, et donc une possibilité d'inflation au bénéfice de la bourgeoisie. Période difficile. La peste, mais aussi la guerre, toujours présente. En Guyenne anglaise, soutenu par le roi, Jean Ier d'Armagnac affronte le captal de Buch qui fait appel à Édouard III. Début septembre 1355, celui-ci nomme son fils Édouard lieutenant de Gascogne. Un prince de 25 ans qui débarque à Bordeaux le 20 septembre avec 1000 hommes d'armes et 11 000 archers.
On décide d'une chevauchée vers l'est, véritable razzia qui ravage les possessions d'Armagnac. Dès le 5 octobre, Édouard quitte Bordeaux avec 14 000 hommes, dont de nombreux Béarnais et Gascons, et à raison de 45 km par jour jusqu'à Bazas, deux semaines plus tard, il maraude à travers les comtés d'Armagnac et d'Astarac. Le 27, ils sont devant Toulouse, où se sont réfugiés Jean d'Armagnac et le connétable de France, Jacques de Bourbon, prêt à tenir le siège. Mais le prince noir préfère s'élancer sur le chemin du roi et détruire les villages du Nord-Lauragais et Castelnaudary. proie de la soldateste, il y mène de véritables actes de terreur. Pillant et brûlant tout sur son passage, le prince noir progresse jusqu'à Carcassonne, qu'il atteint le 3 novembre. On se contente d'en brûler les faubourgs et le 6 novembre, il part ravager les Corbières pour atteindre la mer de Grèce et arrive à Narbonne le 8, où derrière les remparts l'attendent le vicomte Emery VI et 150 hommes. On n'insiste pas et toujours pillant, rejoint Amagneux d'Albret au siège de Capestan, près de Béziers.
Comme le sénéchal de Beaucaire accourt, avec des renforts, on lève le siège et rançonne le Minervois. Puis, Édouard incendie Limoux le 15 et prend d'assaut Belpêche le 16, en épargnant le château, fief de son allié le comte de Foix. Le 9 décembre, le voilà de retour à Bordeaux, avec 1 000 000 de chariots chargés de butins et quelques 5 000 prisonniers. Près de 500 villes et villages ont été dévastés. Le prince noir écrit à son père le jour de Noël pour l'informer de son succès, puis prépare la reprise des hostilités durant la pause hivernale. La seconde chevauchée de 1356 dévastera de Bergerac à Bourges. Ralenti par un butin considérable et fatigué par les combats, sa troupe se replie vers Bordeaux en pillant le sud de la Touraine. Le 19 septembre, à Maupertuis, près de Poitiers, Édouard inflige pourtant une défaite aux Français qui les poursuivaient et capture le roi Jean, dont il réclamera rançon. Stratégie de terreur et de pillage des populations civiles qui sera reprise par les grandes compagnies.
Les communes du Languedoc profitent de la faiblesse du pouvoir royal pour se renforcer. En 1359, les bonnes villes des trois sénéchaussées de Beaucaire, Carcassonne et Toulouse concluent entre elles une union perpétuelle qui exige d'être convoquée ensemble et non plus séparément par sénéchaussée. Dès lors, les assemblées de Languedoc siégeront à date régulière chargé d'établir le montant de l'impôt versé au roi, sa répartition et sa levée.
Nommé régent, le dauphin Charles rappelle les Juifs dans le royaume en leur accordant de nombreux privilèges, car, dit-il, Plus les Juifs auront de privilèges, mieux ils pourront payer la taxe que le roi fait peser sur eux. Les Juifs reviennent donc dans les villes du Languedoc. À Nîmes, on estime alors leur population à 150 âmes et le conseil municipal de juin 1359 leur réserve une partie de la rue de la Corrégerie, vieille, c'est l'actuelle rue de l'Étoile, pour les séparer des chrétiens. Mais cette rue étant située près des remparts, du haut desquels on leur jette des pierres, la communauté demande au conseil de leur attribuer un autre quartier. En août, on les autorise à s'installer rue de la Juiverie, l'actuelle rue Fresque, et rue Cagansol, qui est la partie sud de l'actuelle rue Guizot. Ces dispositions favorables ne vont pas durer.
En octobre 1360, le traité de Brétigny accorde au roi Édouard III tout le sud-ouest du royaume de France et libère le roi Jean contre rançon payable en 6 ans. Celle-ci sera partiellement payée d'ailleurs par les Visconti en échange du mariage de leur fille avec la fille du roi. Et dès décembre, le roi Jean abolit presque tous les privilèges favorables aux Juifs, jusqu'en 1364, où il les rétablit, mais contre une augmentation considérable des tailles et impositions.
Pendant ce temps, les grandes compagnies de soldats démobilisés pillent les campagnes et bloquent le commerce en Bourgogne, vallée du Rhône, jusqu'en Provence et Italie, où ils participent au conflit entre Pise, Florence et Milan. Au printemps 1362, le roi Jean tente en vain de les anéantir, puis, en accord avec Innocent VI, qui paierait une partie de sa rançon, il projette d'en débarrasser le pays en les emmenant en croisade contre les Turcs, financés par le pape, bien sûr. Alors qu'il se rend à Avignon pour finaliser l'accord, le pape meurt fin septembre et le nouveau pape Urbain V ne donne pas suite.
C'est alors que le roi revient à Nîmes en décembre pour y passer les fêtes de Noël et les premiers jours de 1363. On s'est mis en frais pour l'accueillir. 6 consuls, Clavaire et 4 écuyers furent au devant du roi avec trompette, cornemuse et cornet décorés, chacun monté sur un ronsin loué pour la circonstance à trois gros le ronsin. Ils étaient suivis d'un cortège encadré par les 13 bagniers jurés qui portaient des bâtons sur lesquels étaient peintes les armes du consulat et celles du roi. On voit ainsi se développer sur le modèle italien une volonté d'apparat protocolaire de la vie politique, jusqu'à présent réservée aux cérémonies religieuses.
En 1364, Jean II meurt. Son fils aîné, Charles V, lui succède et son cadet, Louis, duc d'Anjou, devient lieutenant royal en Languedoc. À Nîmes, Pierre Scatis, né vers 1335 de Giovanni, le riche négociant de cette famille venue de Lucca, déjà rencontré, devient, pour 22 ans, trésorier de France à la cour du sénéchal de Beaucaire. Habile financier, il avait négocié en 1362 avec Innocent VI un acompte de 4000 moutons d'or sur les sommes promises au roi Jean et s'emploie, par tous les moyens, à faire entrer les impôts. Il est missionné en Normandie, où 76 000 sont baillés à Pierre Scatis, receveur de Nîmes, qui les employa à payer la solde des Génois enrôlés par le roi. Fortune faite, il acquiert en 1365 la seigneurie de Villevieille. Puis le voilà général des aides du Languedoc de 1369 à 1374 et maître de la cour des comptes. À ce titre, avec l'archidiacre de Meaux commis par Louis d'Anjou, il préside les états généraux du Languedoc, réunis à Nîmes en janvier 1371.
La plaidoirie d'un procès en appel de 1384 pour abus de pouvoir entre Jean Bastier, bourgeois et marchand de Montpellier, et Antoine Scatis, fils de Pierre, nous le dépeint. Il était homme de grande autorité, riche et puissant, mais aussi austère et arrogant, à ce point qu'il avait coutume de contraindre à lui obéir presque tous nos sujets et nos autres officiers du pays de Languedoc par sa puissance et par la pression des offices à lui par nous conférer. Les uns par menace, les autres par emprisonnement, certains dans des blasphèmes ou des injures, les autres par la privation de leurs biens propres.
Au retour d'une expédition espagnole, Édouard, d'Angleterre, a obtenu un impôt de ses états généraux de 1368 pour restaurer ses finances. Le comte d'Armagnac, bien sûr, s'y oppose et, soutenu par Charles V, rompt la paix de Brétigny. Dès 1369, il aide Louis d'Anjou, lieutenant du Languedoc, à reconquérir une grande partie des territoires perdus. Cependant, plusieurs grands seigneurs du Saintonge, d'Angoumois ou du Poitou ne se soumettront au roi qu'en 1372. De même, d'ailleurs, les villes de Millau ou de Montauban.
À Nîmes, comme dans les cités italiennes, les consuls ont donc réussi à garder une certaine indépendance politique en complicité avec le pouvoir central pour supplanter le pouvoir politique de l'évêque, qui conserve pourtant d'importantes prérogatives économiques et bien sûr morales. Ainsi, les villes des États pontificaux, se ralliant à Florence et Visconti, depuis Avignon, Grégoire XI excommunie les Florentins avant de revenir dans une Rome révoltée pour y mourir en 1378. Urbain VI le remplace, mais les cardinaux d'Avignon préfèrent Clément VII. C'est le début du grand schisme d'Occident.
À Nîmes, comme à Florence, on vit encore surtout de l'industrie lainière. Ici, comme à Florence, les négociants dirigent la ville et se distinguent des artisans en se construisant des demeures avec tours. Pourtant, des signes annoncent déjà le crépuscule des communes médiévales et la révolte des Chiompi florentins en 1378 n'en est qu'un dernier soubresaut bien vite maté par les Albizzi, même s'ils conservent pour la forme le pouvoir du popolo. De même à Nîmes, la même année, où comme les conciles refusent l'augmentation des impôts, le duc d'Anjou confisque l'hôtel de ville et les biens de la communauté et fait emprisonner le Claver, le collecteur d'impôts, et quatre des consuls. L'année suivante, c'est au tour de Montpellier de se soulever. Anjou assiège la ville. La médiation du pape obtient du duc une amende légère et les seules exécutions de quelques meneurs en 1380. En 1384, le roi imposera à Nîmes son sénéchal de Beaucaire.
Ainsi s'achève le Trecento à Nîmes, mais ici, aucune comparaison n'est possible dans le domaine artistique avec Florence, beaucoup plus riche et peuplée. Pas d'urbanisation, ni de construction prestigieuse, ni palais, ni loggia, ni place della Signoria. En 1397, naît à Florence Paolo Uccello, tandis qu'une famille d'apothicaires originaire des Apennins, les Médicis, s'est installé dans le quartier San Lorenzo comme banquier. Ils ouvriront bientôt des filiales à Venise et Rome, puis à Naples, Milan, Pise, Avignon et Lyon.